L'invité du jour.
À Ankara, le principal parti d'opposition, le CHP, le Parti républicain du peuple, appelle à manifester aujourd'hui devant le Parlement. Malgré l'interdiction de rassemblement, le CHP entend poursuivre la protestation entamée après l'arrestation du maire d'Istanbul, Ikrem İmamoğlu, en ce jour symbolique pour la République. Et pour mieux comprendre la situation, nous recevons Didier Billion, directeur adjoint de l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, docteur en sciences politiques, spécialiste de la Turquie et du Moyen-Orient. Selon vous, l'arrestation du maire d'Istanbul illustre-t-elle une dérive autoritaire du régime turc ?
Oui, incontestablement. Alors, cette dérive autoritaire, elle est à l'œuvre depuis déjà de bien nombreuses années. Probablement au début des années 2010 déjà, accrue par la tentative de coup d'État de 2016. Et on constate que depuis lors, donc ça fait presque 9 ans maintenant, les mesures liberticides se succèdent les unes aux autres. Mais cette arrestation du maire d'Istanbul le mois dernier marque un saut qualitatif dans cette dérive autoritaire et liberticide. Parce que s'en prendre à un maire élu, ce n'est pas la première fois en Turquie, mais s'en prendre au maire de la principale ville du pays, je rappelle quand même qu'Istanbul, c'est 16-17 millions d'habitants, et en outre, un des principaux responsables du principal parti d'opposition, c'est évidemment un bras de fer qui a été engagé par le pouvoir et qui dénote une volonté d'empêcher que les élections présidentielles à venir, elles sont prévues pour 2028, donc ce n'est pas tout à fait pour demain, mais il se prépare déjà, et clairement, Monsieur İmamoğlu, le maire d'Istanbul, apparaissait comme un rival extrêmement sérieux, puisque c'est un homme populaire, qui a un véritable charisme, qui est considéré comme un des rénovateurs du Parti républicain du peuple, donc un homme qui coche beaucoup de cases, et qui était probablement promis à une victoire électorale. C'est d'ailleurs pour cette raison très précise que Erdogan a décidé de le faire mettre en prison, car je ne crois guère à la fable de l'indépendance de l'institution judiciaire qui a été totalement repris en main par le pouvoir. Donc on est véritablement à un moment où les tensions s'exacerbent en Turquie, à un moment où le pouvoir tente d'accroître les mesures liberticides pour des raisons évidemment politiques et pour défendre ses propres intérêts. Cette situation est infiniment préoccupante, mais elle suscite une véritable résistance de la part de la société turque.
Celui qui gagne Istanbul gagne la Turquie, déclare Erdogan lorsqu'il dirigeait la ville entre 1994 et 1998. Cette formule prononcée il y a des années reste plus que jamais d'actualité dans la vie politique turque. Pourquoi Istanbul présente-t-elle un enjeu stratégique pour les partis politiques ?
Tout d'abord parce que c'est la première ville du pays, démographiquement parlant. J'évoquais 16-17 millions d'habitants. C'est aussi 40% du produit intérieur brut en Turquie. Alors quand je parle d'Istanbul et de sa région immédiate, donc c'est là où se concentre une très grande partie des industries, des forces vives de la nation. En ce sens, la mairie d'Istanbul, elle permet à celui qui tient la mairie d'avoir des revenus financiers non négligeables. Quand je dis ça, c'est un peu ambigu. Ça veut dire que celui qui détient Istanbul possède à son actif des moyens financiers, parce que la ville est une ville riche, qui lui permet de se projeter dans la vie politique en Turquie. C'est exactement ce qu'a fait M. Erdogan, alors comme vous le rappelez qu'il était maire d'Istanbul, et je pense que M. İmamoğlu a fait de même, c'est-à-dire qu'il profite de sa situation. La ville d'Istanbul surplombe véritablement toutes les autres métropoles, y compris la capitale officielle Ankara. Et cette phrase qui est attribuée à Erdogan, qui contrôle Istanbul, contrôle la Turquie, est parfaitement vraie. Elle l'était à l'époque où il était maire, et il l'est toujours aujourd'hui. Donc Istanbul a toujours constitué un enjeu politique, symbolique, mais aussi financier, économique, de première importance pour tout parti qui se projette dans la bataille électorale, et notamment la bataille électorale présidentielle. Et c'est d'ailleurs pour ça que lors des dernières élections municipales, il y a juste un an, au mois de mars 2024, M. Erdogan avait mis beaucoup d'énergie à soutenir le candidat de son propre parti, le parti de la justice et du développement, que cela a été vain et que M. İmamoğlu a été réélu assez confortablement, ce qui prouve qu'il a une véritable reconnaissance de la part de ses administrés à Istanbul. Il est majoritairement considéré comme un bon gestionnaire. C'est aussi quelque chose qui est à son actif. Et donc, évidemment, Istanbul, de ce point de vue, de tous ses points de vue, représente un enjeu politique et stratégique de première importance.
Le président turc et son parti, l'AKP, le Parti de la Justice et du Développement, s'appuient régulièrement sur des leviers institutionnels pour consolider leur pouvoir, en particulier le Conseil électoral supérieur, donc le Yüksek Seçim Kurulu. Depuis 2016, la mise en œuvre de la politique dite de Kayyum, qui permet de démettre des élus pour les remplacer par des administrateurs nommés, s'est élargie aux municipalités dirigées par l'opposition, surtout celles perdues par l'AKP. Le Conseil électoral supérieur apparaît de plus en plus comme un instrument au service du pouvoir exécutif, remettant en question son indépendance. Peut-on dire que l'on assiste à une instrumentalisation des institutions, à des institutions subordonnées par l'exécutif ?
Oui, c'est net et clair. Ce Conseil électoral est en réalité composé de membres qui ont été nommés par Erdogan ou certains de ses proches. En ce sens, ce n'est pas une institution neutre chargée de faire respecter les lois de la République. C'est clairement un instrument d'exercice du pouvoir, de contrôle du pouvoir et de renforcement du pouvoir. Alors, ce que vous soulignez est très important. C'est-à-dire que la destitution de maires qui ont été démocratiquement élus et qui sont remplacés par des administrateurs, des kayyums, effectivement n'est pas un processus nouveau en Turquie. Cela s'est produit à de nombreuses reprises, notamment depuis les dernières élections municipales, mais même dans la précédente mandature municipale avant 2024, de nombreux maires du parti kurdiste avaient été destitués de leurs fonctions, remplacés par des administrateurs et pour certains d'entre eux mis en prison. Mais à l'époque, ça n'avait pas suscité énormément de réactions parce que ça concernait les Kurdes. Alors je le regrette, mais je suis forcé de constater une telle situation. La nouveauté cette fois-ci, c'est pourquoi je pense que nous rentrons dans une nouvelle conjoncture, c'est que Erdogan, par l'arrestation de M. İmamoğlu, s'affronte directement au parti principal et à un homme qui a une énorme aura, un énorme charisme dans la vie politique turque. Donc on est dans une nouvelle situation, une nouvelle conjoncture. Et pour l'instant, il n'y a pas eu de nomination d'un administrateur pour diriger la ville d'Istanbul. C'est très intéressant parce que au moment où M. İmamoğlu a été arrêté, il y avait deux chefs d'accusation contre lui. La première concerne toutes les affaires de prévarication financière, de passation de marchés publics qui n'étaient pas contrôlés, soi-disant. Enfin, ça, c'est les chefs d'accusation. Puis il y avait un deuxième chef d'accusation, c'était celui d'être complice d'une organisation terroriste. Pour parler clair, d'être complice du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan. Cette deuxième accusation, elle aurait pu justifier, du point de vue du pouvoir, la nomination d'un administrateur. Parce qu'on constate que tous les maires qui ont été démis sont systématiquement accusés de complicité avec une organisation terroriste, ce qui permet de les démettre. Or là, je reviens à M. İmamoğlu, l'accusation de complicité avec une organisation terroriste n'a pas été retenue, à ce stade en tout cas. Donc, pour le moment, seulement des affaires financières de corruption active, dit-on, sont retenues dans l'accusation contre M. İmamoğlu et donc ne nécessitent pas la nomination d'un administrateur. Ce que je veux dire par là, c'est que le pouvoir, en lançant une attaque de type judiciaire, mais en réalité politique contre M. İmamoğlu, l'a fait, à mon avis, de façon très précipitée, car il semble que les éléments de l'accusation sont assez fluets, que le dossier d'accusation n'est pas très complet, ce qui, semble-t-il, a mis M. Erdogan en rage et qui ne vont pas permettre le jugement et la condamnation de M. İmamoğlu. Donc on est dans une situation où même le pouvoir semble avoir pris des décisions très précipitées sans qu'il n'ait véritablement bordé son dossier, ce qui risque de se retourner en son contraire et au contraire servir les intérêts du Parti républicain du peuple. Vous voyez, on est donc dans une situation nouvelle. Pendant toute une période, des maires étaient destitués, démis, voire mis en prison, et cela ne suscitait pas beaucoup de réactions. Cette fois-ci, non seulement ça suscite beaucoup de réactions, des manifestations, un mouvement de boycott, etc., mais en plus, il semble que le dossier d'accusation n'ait pas été bien bouclé et que les accusations contre M. İmamoğlu ne soient pas du tout fondées. Alors, on verra bien comment les choses se dénouent dans les semaines à venir, mais tout cela montre qu'il y a une sorte de crise politique au sommet et que le pouvoir ne maîtrise plus tout à fait la dynamique des décisions qu'il prend lui-même.
Merci beaucoup Didier Billon d'avoir été en ligne avec nous pour nous aider à mieux comprendre la situation en Turquie. Je rappelle que vous êtes directeur adjoint de l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, docteur en sciences politiques, spécialiste Turquie et du Moyen-Orient.
L'invité du jour.